devant vous encore ce matin. Je serai encore dans 3 semaines. Si vous en avez marre de me voir, ben, je sais pas, payez-moi des vacances ailleurs, peut-être. Alors, je suis content d'être là. Et puis, ce matin, j'aimerais faire un petit enseignement sur vivre le surnaturel. Et la première chose, c'est de se rendre compte que tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, c'est pas ce qui est existant ne s'arrête pas là, mais qu'il y a tout un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ vivent dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, on a accès à des choses qui vont au-delà de ce qui est naturel et même parfois de ce qui est logique. Et ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est la notion des dons spirituels. Au travers de notamment 3 chapitres de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Et j'aimerais juste lire un tout petit bout qui est dans le verset 31, « Désirez avec ardeur les dons les meilleurs. » C'est vraiment le cœur de ce que je veux vous apporter ce matin, c'est vraiment cette notion de désirer les dons spirituels. Et je vais avoir beaucoup de versets, mais vous pourrez les retrouver facilement dans ces 3 chapitres. Après, je donnerai d'autres références. Mais bon, presque, on pourrait juste comme ça passer au travers des versets clés. Et puis, l'enseignement est juste là. Moi, je brode autour, mais ce qui importe, c'est la parole de Dieu. À partir du moment où on est né de l'Esprit, qu'on vit dans le royaume de Dieu, on a donc accès à des choses célestes, à des choses surnaturelles. Et le premier verset de 1 Corinthiens 12 dit, ça dépend des versions, concernant les dons spirituels. Et puis là, on a 3 chapitres qui se terminent à la fin du chapitre 14. Paul qui dit, en résumé, mes frères, recherchez ardemment le don de prophétie et ne vous opposez pas à ce qu'on parle en des langues inconnues, mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Donc, moi, ce qui m'a un petit peu fait réfléchir à un moment donné, c'est que j'ai lu dans une version où ce premier verset du chapitre 12 disait à propos des dons spirituels. Et puis, juste après, les 2 versets d'après ne nous parlent pas de dons spirituels, ils parlent des idoles. Il parle du fait de qu'on puisse dire que Jésus est Seigneur, du fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Et en fait, en regardant dans le texte grec, qui dit « peri-deton pneumoticon », il n'y a pas le verbe, il n'y a pas le mot « don ». Et si on allait regarder dans d'autres versions, où en fait, le sujet de ces 3 chapitres, ce n'est pas exclusivement les dons spirituels, c'est vraiment le domaine spirituel, le pneumoticon, c'est-à-dire les choses spirituelles. Il y a des versions qui disent les réalités spirituelles. Et c'est pour ça que ça commence tout de suite en parlant de ce qui est de l'idolâtrie, de ce qui est du choix de suivre Jésus ou pas. Et ce qui explique aussi qu'en plein milieu, il y a le chapitre 13 qui est l'hymne à l'amour, tout ce qui concerne l'amour, c'est inclus dans cette espèce de capsule concernant la vie spirituelle. Je trouve ça très intéressant. Alors, concernant les dons spirituels, le verset 4 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Et cette diversité, c'est vraiment une marque vraiment de la nature de Dieu, c'est-à-dire la générosité, l'abondance, le fait d'avoir différentes manières de faire, différentes manières d'agir. Et en fait, ce que l'Esprit va nous permettre de vivre au travers des dons spirituels, c'est une variété de capacités surnaturelles à agir, à connaître, à transmettre. Et Paul n'arrête pas de nous dire « Ayez soif de vivre ces choses-là, recherchez-les, essayez de les comprendre, demandez à Dieu de les vivre. » Et parce que l'objectif, c'est de se construire et de construire les autres individuellement et de construire l'Église locale, de construire l'Assemblée, de construire... en fait, d'être du coup participant de l'œuvre de Christ, qui est de former son Église. Au travers des dons surnaturels, on a une capacité qui est au-delà de ce qu'on peut faire humainement, de construire tout cela. Alors, cette diversité, on l'a entre autres dans le verset 8 du chapitre 12. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi. Alors la foi, on peut se dire, la foi de manière globale, c'est de croire en Dieu, de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est déjà quelque chose de surnaturel. La Bible nous dit que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient nous le révéler. Mais là, il y a une dimension de foi qui est au-delà. Quand on a un don de foi, c'est vraiment quelque chose dans... même les autres croyants autour de vous peuvent ne pas être... aligné avec quelque chose qu'on croit fermement, mais c'est parce que c'est vraiment un don de la part du Saint-Esprit de croire quelque chose fermement. À un autre, le don de guérison par le même esprit, à un autre, la possibilité de faire des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Donc là, on a une liste plus ou moins exhaustive quand même, de différents dons spirituels que nous sommes appelés à rechercher pour nous-mêmes, afin forcément que ça serve les autres. Le but, c'est pas juste d'être content de faire quelque chose de spécial, puisque de toute manière, c'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit au travers de nous. Donc il n'y a pas trop moyen de se glorifier de ça. Un autre passage, c'est Romains 12 au verset 6, qui nous dit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui a le don d'encourager, encourage. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. » On a une liste ici de choses intéressantes, mais on n'a pas de dons surnaturels supplémentaires par rapport à la liste d'avant, c'est-à-dire que d'être généreux, de savoir encourager, d'être bienveillant, d'enseigner, c'est des capacités, des qualités humaines que forcément le Saint-Esprit vient faire grandir aussi, mais ce n'est pas de l'ordre du miraculeux. Donc, la liste qu'on a dans 1 Corinthiens 12, 8, là, on a vraiment des choses qui tiennent du miraculeux. Alors, le fameux mot « don », on le retrouve, par exemple, dans le verset 4, « Il y a diversité de dons ». C'est le mot « charisma ». En grec, le mot « charisma » qui ne veut pas dire « don spirituel », mais qui veut dire « don », tout simplement. Donc, quand... Paul plusieurs fois se sert de ce mot-là. Il y a des fois où il ajoute spirituel pour dire que vraiment il y a quelque chose de qui n'est pas matériel ou humain, mais qui a vraiment quelque chose de surnaturel. Et ce mot charisma, ça donne charismatique forcément, parce que quand on veut vivre ces choses-là dans notre foi chrétienne, on se différencie de certaines théologie qui disent que ces choses étaient pour le temps de Jésus ou des apôtres ou des premiers chrétiens et puis que c'est maintenant terminé. Je ne vais pas rentrer dans tout ce débat théologique. Simplement, tout au long du Nouveau Testament, on voit que les chrétiens vivent ces choses et puis qu'on est, nous, encouragés 2000 ans après à les vivre également. Alors, charisme, ça veut dire don gratuit, faveur, grâce, et c'est quelque chose que le Saint-Esprit va nous donner, mais pas en récompense de, je sais pas, d'avoir fait une bonne action, pas en récompense d'avoir, par rapport à notre piété, mais c'est vraiment une grâce. C'est un don par grâce. Et c'est un mot qu'on va retrouver dans d'autres contextes qui nous montre que vraiment, c'est pas une manière de reconnaître qu'on est un bon chrétien, quoi. On va pouvoir bénéficier, recevoir, par exemple, le don de guérison, mais pas forcément parce que on a atteint un certain niveau, on n'est pas dans un jeu vidéo où il faut passer les étapes et à partir d'un moment on va gagner quelque chose. C'est vraiment Dieu qui décide de faire un don gratuit. D'ailleurs, ce mot charisma est utilisé dans un autre verset qui est 1 Corinthiens 7:7. Paul dit: je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don. Donc là, charisma, particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Là, il n'est pas du tout en train de parler de don spirituel, parce qu'il est en train de parler de célibat et de mariage. Et pour Paul, le fait que à certains, Dieu ait vraiment, favorisé le fait qu'il se marie, c'est un don, c'est une grâce de la part de Dieu. Et en même temps, il dit, moi je suis célibataire. C'est comme aussi un don que Dieu m'a fait de vivre le célibat. Donc on peut rattacher ce mot charisma à des choses qui ne sont pas de l'ordre du surnaturel, mais ça reste des grâces, ça reste des dons de Dieu, ça reste des choses qui construisent nos vies, qui d'une certaine manière, qui va nous correspondre par rapport à ce que Dieu a prévu pour nos vies. Alors, quelle est la source des dons qui sont surnaturels? Ça va être le Saint-Esprit, puisqu'on a lu, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. Ça, c'est dans les versets 4, 5, 6. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et un peu plus loin, au verset 11, toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. Et donc, il n'y a pas à être jaloux, à jalouser un tel. Il fait des miracles. Quand il prie pour des guérisons, ça marche. Quand ceci, mais c'est chacun. Dieu nous donne des choses qui vont être différentes de notre frère, de notre sœur, parce que si on avait tous le même don, on ferait tous la même chose. Puis finalement, il y a des besoins, des choses qui ne seraient pas couvertes par le corps du Christ. Et au contraire, il faut se réjouir que mon frère ou ma sœur a un don particulier que moi j'ai pas, parce que si je les avais tous, je m'auto-suffirais à la fin. Alors que, au contraire, c'est après, comme l'image que Paul reprend du corps, chacun va avoir quelque chose. Et dans les dons surnaturels, c'est pareil, chacun va avoir des choses différentes, et c'est la complémentarité qui vraiment construit le corps. Et permet d'être non seulement en dépendance de Dieu, mais aussi en dépendance les uns des autres, pour rester dans l'amour, dans le partage. Alors, il y a une réalité spirituelle qui est que des non-chrétiens ont aussi des capacités surnaturelles. Alors, on peut parler de des voyantes, etc., des personnes qui vont pouvoir communiquer avec le monde surnaturel, certaines avoir des paroles de connaissance, on va dire, c'est-à-dire de savoir ce qui a pu se passer dans la vie des gens avant, d'autres qui vont pouvoir un peu prédire l'avenir, mais bon, c'est aussi des choses, tout ça qui vont pas passer par le Saint-Esprit, évidemment, puisque c'est pas le Saint-Esprit qui va transmettre tout ça, mais c'est des esprits démoniaques. Donc il faut faire attention, parce qu'on peut avoir quelque chose qui ressemble, puisque Satan, son un de ses moyens de nous tromper, c'est d'imiter ce que fait Dieu. Et donc on peut avoir des imitations, mais la source n'est pas de Dieu. La source est vraiment de Satan et des démons. Il y a un exemple qui m'avait assez frappé. J'avais vu un reportage, tout naturellement, sur France 2 ou je sais pas quoi, sur les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, pour faire court, c'est des personnes qui ont une capacité surnaturelle à faire en sorte que les personnes qui ont des brûlures graves, non seulement les douleurs disparaissent, mais que la guérison, la cicatrisation est vraiment exceptionnelle. Et il y a des hôpitaux qui ont dans leur carnet d'adresse des coupeurs de feu, et ils appellent « Allô, allô, on a un grand brûlé, est-ce que il y a possibilité d'intervenir ?» Voilà. Et la personne, à des centaines de kilomètres de là, par téléphone, va faire je sais pas quoi, et il y a un vrai impact. Et les médecins, après tant d'années d'études et de choses très terre à terre, se tournent des fois vers ces choses alternatives et en voient l'efficacité. Donc on va pas nier que ce soit vrai. Ah, bah c'est les coupeurs de feu, c'est un exemple. Je parlais des voyants, il y en a d'autres qui ont une capacité surnaturelle à faire en sorte que des grands brûlés puissent voir les douleurs disparaître, et puis la cicatrisation qui va être beaucoup augmentée, améliorée. Voilà. Sans même venir toucher, faire des trucs bizarres sur les gens, à distance. Donc là, clairement, il y a des effets suffisant pour que les médecins eux-mêmes préfèrent des fois ça que ce qui est médicalement prévu. Donc, on ne peut pas nier les choses, mais quelle est la source ? La source de comment savoir que la source est bonne, finalement ? Parce qu'on peut aussi avoir un chrétien qui a un don de guérison, qui va prier pour un grand brûlé, et puis il va aussi pouvoir guérir et cicatriser mieux, je veux dire. La différence, ça va être la source de ce qui va impacter la réalité. Est-ce que la source vient de Dieu ou est-ce qu'elle ne vient pas de Dieu ? Et comment faire la différence ? C'est surtout parce que quand un chrétien va se servir de ses dons spirituels, ils vont servir à honorer Dieu, ils vont servir à témoigner de Jésus-Christ, ils vont servir à amener la personne auprès de Dieu, alors que toutes les choses qui vont pas venir de Dieu vont plutôt venir soit glorifier l'homme, soit l'éloigner de toute façon de la volonté de Dieu et de Dieu lui-même. Donc au-delà d'une certaine efficacité physique, la chose à laquelle il faut être attentif, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les conséquences aussi, et ce que nous on veut en pratiquant les dons surnaturels, c'est d'amener les gens à Christ, c'est d'amener les gens à connaître Dieu et à ce qu'ils soient sauvés, et à ce que les choses célestes puissent venir apporter les bénédictions sur la terre. Donc pour nous chrétiens se dire mais on a ces capacités surnaturelles, et moi ça me fait mal au cœur de voir un reportage au journal télévisé qu'ils appellent un rebooteur, un magnétiseur, je veux dire que les médecins, les hôpitaux se mettent à appeler des gens qui font des choses comme ça, parce que je me dis mais où sont les chrétiens ? Oui, l'objectif, c'est d'amener à croire en Dieu. Après, quel que soit le problème, si c'est une guérison, ça peut aussi être juste un problème physique, mais ça peut être aussi un problème spirituel. Forcément, Jésus qui peut chasser un démon, et puis la personne est guérie, parce que la maladie pouvait venir de là. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de dons différents. Mais l'idée, c'est de se dire, mais nous, on a le ciel qui est ouvert... pour nous et pour le propager, pour le partager, Et j'aimerais que ce soit les chrétiens qui soient connus pour apporter la guérison miraculeuse et pas les rebouteux ou ceux qui font ça d'une manière qui est détournée et qui n'amène pas à Dieu. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un vrai don et ça ne va pas être quelque chose qui va comme venir. C'est pas comme si Dieu disait, bon, regardez cette personne-là, elle est assez pieuse pour que je lui donne un don surnaturel. C'est pas quelque chose qui va venir dire cette personne elle a les bons choix théologiques ou elle a un bon caractère. Où voilà, on peut tout à fait avoir quelqu'un qui a un don de guérison et un très mauvais caractère. Ça existe. Donc c'est pas là pour venir confirmer que la personne est un bon chrétien. C'est là aussi, comme le salut, c'est quelque chose qui est quelque part immérité. C'est une grâce, c'est une faveur, quoi. Alors est-ce qu'on peut perdre un don surnaturel ? Il y en a qui disent non en se servant de Romains 11, 29 qui dit « Dieu ne se repent pas de ses dons » et là c'est le mot « charisma » qui est utilisé « et de son appel ». Je serais un peu mitigé sur la question, en particulier parce que ce verset il parle d'Israël et de la vocation d'Israël. On n'est pas en train de parler des dons surnaturels dans ce passage de Romains 11. Et puis, quelqu'un qui va renier Christ, qui va renier le Saint-Esprit, je suis un peu sceptique que le Saint-Esprit va continuer à opérer des miracles au travers de cette personne. Bon. Maintenant, j'ai pas, là, ce matin, envie de développer... Oui, c'est pour ça que je dis que là, je n'ai pas envie d'approfondir la théologie et puis l'argumentaire, parce que c'est quelque chose que certains utilisent en disant, ben voyez, Dieu ne reprend pas un don. Ben, on dit donner ses données, reprendre ses volets. Ben, bon, ben, est-ce qu'on l'applique à Dieu ou pas? Est-ce qu'on l'applique au don surnaturel ou pas? Moi, je dis, certains se servent de ce verset pour dire non, Dieu a donné, il ne va pas reprendre. Et voilà, sans approfondir l'étude biblique et l'argumentaire, moi je suis pas aussi certain que ça. Mais la question c'est surtout, est-ce qu'on veut les vivre et est-ce qu'on les demande? Et j'y reviendrai juste après. Simplement faire un petit aparté aussi sur qu'est-ce qui est du don et qu'est-ce qui est du ministère. 1 Corinthiens 12 encore nous dit au verset 28 « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Point d'interrogation. Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Et la réponse est forcément non. Donc, il a été donné d'un côté des apôtres, des prophètes, des enseignants, et puis des dons pour agir dans le miraculeux. Mais tous ne sont pas des apôtres, des prophètes. Et on peut tout à fait avoir un don de prophétie, d'apporter des prophéties, sans être prophète dans le sens où Paul dit ici Dieu a établi des apôtres et des prophètes. Et il faut différencier du coup le fait de pouvoir agir dans le surnaturel grâce à un don surnaturel, un don spirituel, et le fait d'être appelé à un service de l'Église de la manière assez forte qui correspond au ministère. Et pour essayer de résumer un peu la différence, ce qu'on pourrait dire, c'est que le don spirituel est une capacité surnaturelle qui est offerte par le Saint-Esprit pour l'édification des croyants. Et la différence, c'est que le ministère, c'est une personne que Jésus-Christ va donner à l'Église pour l'édification du corps. Donc en fait, le Saint-Esprit va donner des capacités surnaturelles. Le ministère, c'est une personne que Dieu donne à l'Église. Donc il y a une différence dans la manière, dans l'objectif, dans... Voilà, après, le but est toujours d'édifier les chrétiens et puis de faire grandir le corps du Christ. Mais on a une différence là qui fait qu'on peut tout à fait avoir un don très fort, mais pas forcément être appelé à avoir dans le corps du Christ cet appel au ministère. C'est différent. Et donc, là aussi, comme on peut se dire un tel prie pour la guérison et puis là, il y a de l'efficacité, puis moi pas, mais j'ai autre chose, on peut se dire, ben moi, Dieu m'a donné tel don, mais il ne m'a pas appelé d'une manière spécifique à travailler là-dedans pour son corps, mais au moins je peux faire profiter les uns les autres de cette capacité. Et là aussi, au lieu de jalouser les autres, de se dire, ben moi, merci Seigneur, je peux agir dans le surnaturel, aider les gens avec ce que Dieu m'a donné. Et si l'autre personne est appelée à servir différemment, chacun a son propre appel, quoi. Et ça, la propre manière de vivre ce que Dieu a prévu. Donc, voir toujours ça avec cette notion de complémentarité, de diversité. Et surtout, si Dieu ne nous a pas clairement appelé à un ministère, il faut surtout pas tenter de se faire sa place soi-même, parce que ça marchera pas. C'est comme des pièces de puzzle. Et si on essaye de rentrer au mauvais endroit, non seulement nous, on va essayer de se coincer, de se tortiller pour rentrer dedans, on va pas être bien, puis les autres vont pas être bien non plus. Donc chacun avec ce que Dieu nous donne, chacun avec ce que Dieu nous appelle à faire. Et je pense que c'est dans cette simplicité qu'on peut vivre les choses voilà, avec le bonheur d'apporter, d'être serviteur. Ce qui est intéressant, c'est que entre le chapitre 12, comme on a vu, et puis le chapitre 14, sur lequel je concluais tout à l'heure et qui parle surtout du parler en langue et le don de prophétie, on trouve le chapitre 13. Là, on va loin dans la théologie. Hein. Et le chapitre 13, tout le monde connaît 1 Corinthiens 13, ça parle de l'amour. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit, comme je disais, encapsulé vraiment dans comment vivre par l'esprit. Comment vivre par l'esprit avec les dons spirituels, avec comment les avoir, comment les recevoir, ça vient de qui, de quoi, de où. Bref, beaucoup d'informations, comment les vivre dans l'assemblée, vraiment beaucoup d'informations. Et ce fameux verset à la fin du chapitre 12, « Aspirez aux dons les meilleurs », pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Et là, Paul nous parle de l'amour. Et en fait, les dons spirituels vont vraiment produire le meilleur quand on les vit dans l'amour. Tout ce beau texte, avec l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante point, il n'y a pas d'orgueil, il n'est pas malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, etc., etc. Toutes ces belles choses qu'on peut... je veux dire, vivre au quotidien, d'ailleurs c'est pour tous, et c'est même pour beaucoup de non-croyants, un des plus beaux textes sur ce qu'est l'amour. Paul, c'est pas une digression, il sort pas du sujet, il est en train de nous expliquer comment vivre le surnaturel, les dons spirituels, comment vivre par l'esprit. Et il dit c'est la meilleure chose, c'est de le faire par amour et dans l'amour. Et si on veut par exemple acquérir un don pour se faire un nom, malheureusement l'intention, le cœur n'est pas bon. Et on va finir par chercher à ce que la gloire nous revienne, à ce qu'on soit reconnu. Et l'objectif des dons spirituels, c'est pas celui-là. L'objectif des dons spirituels, c'est d'aller bénir l'autre et de l'amener à Christ, de l'amener vers Dieu. Et si à un moment donné, on se dit « moi, j'aimerais faire des miracles », parce qu'après, on va dire « purée, quand il prie, il y a des guérisons, quand il prie, il y a des miracles », l'intention, le cœur n'est pas bon. Et ça va nous causer des problèmes personnels, et puis ça risque aussi de faire des problèmes pour les autres, parce que c'est là qu'on va se mettre peut-être à jalouser, parce qu'on va se dire oh là, mais un tel, il a plus de réponses à la prière que moi, donc on peut se mettre à jalouser. Enfin, quand on quitte l'amour de l'autre et de Dieu dans la pratique des dons spirituels, on peut rapidement avoir des soucis importants et en causer aux autres. Romains 12,9 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ça vient aussi toucher ce domaine où si on veut par exemple apporter une parole prophétique mais que derrière on a des idées un peu tordues, s'il y a de l'hypocrisie, ça ne va pas être un amour réel, ça ne va pas être quelque chose de vraiment pur devant Dieu, et ça va être problématique. Il y a le proverbe 15,33 qui dit « L'humilité précède la gloire. » Parce que quand on cherche à mettre Dieu en avant et à bénir l'autre, Dieu après pourra faire ce qu'il veut de qui on est, etc., et de notre témoignage. Mais l'amour va vouloir mettre l'autre en avant en premier. Alors une autre, pour pas être trop long, il y a l'amour, toute la manière de vivre l'amour. Donc bah, je vous laisse de toute façon relire ces trois chapitres et puis les méditer chez vous pour vous-même. Mais je vais juste rajouter deux, trois éléments. Je trouve intéressant dans 1 Corinthiens 14, versets 32 et 33. Celui-là. Car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et dans la manière de vivre les dons surnaturels, on a à rester maîtres de nous-mêmes, comme c'est dit là. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas un don spirituel qui va nous rendre un peu fou, un peu désordonné, qui va désorganisé, qui va fragiliser, mais au contraire on reste maître de soi-même. On a un don spirituel, on n'est pas sous l'emprise de quelque chose qui va modifier notre conscience, va modifier notre capacité à choisir et notre volonté. Et ce qui est important, c'est que si moi je veux tendre le bras, je vais tendre le bras. Mon cerveau le choisit, mon corps fait le reste. Et dans les dons spirituels, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on a la capacité de décider de vivre le surnaturel. C'est-à-dire, la première chose, c'est de décider de prier. C'est de décider d'agir. Et il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour faire les choses au bon moment, selon sa volonté, son désir d'agir. Et on est en capacité aussi de refuser de faire les choses, c'est-à-dire de pas chercher à vivre ces dons spirituels, de pas chercher à les pratiquer. Donc on reste maître de nous-mêmes, mais quand on va agir, ça va pas être dans la confusion, dans le désordre, parce que le Saint-Esprit prévoit qu'on apporte les choses comme je disais, par amour, mais aussi avec justesse, c'est-à-dire au bon moment, de la bonne manière, pour que l'impact que Dieu cherche à faire soit vraiment bon. La prophétie est un exemple simple. Paul dit, ben oui, tous peuvent prophétiser, mais que ce soit pas trois personnes à la fois et puis que ça devienne la cacophonie. C'est pas parce que on reçoit quelque chose dans notre pensée qui est de l'ordre du prophétique qu'il nous faut absolument sauter sur les micros ou aller dire partager une parole à une personne d'une manière qui soit dénuée d'amour, par exemple, parce qu'on peut tout à fait avoir une révélation que la personne vit dans un péché et que Dieu veut la libérer et l'amener à quelque chose de glorieux. Et il y a la manière de dire, il y a la manière de faire, il y a le moment et toutes ces choses-là. C'est, on est, comme le dit Paul, on est maître de la gestion de ce don. Et on peut gérer un beau don spirituel d'une mauvaise manière. Donc c'est rester à l'écoute toujours du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la capacité dans le surnaturel. C'est aussi lui qui donne la manière de le pratiquer. Et il y a plusieurs versets qui reviennent nous dire ce que Dieu donne. Oui, on est béni de le recevoir, mais c'est pour les autres. Alors, au verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et 1 Pierre 4:10 dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don, charisma, là, qu'il a reçu. Donc on est vraiment invité à pas rechercher à bénéficier des dons spirituels pour nous-mêmes, mais de les mettre à disposition de tous. Et quand je dis de tous, c'est pas seulement des frères et sœurs croyants. On a des dons de guérison, c'est aussi et surtout pour que ça aille impacter le monde, que ça aille faire une différence pour des non-croyants qui vont se dire « Mais Dieu est venu, il a fait une guérison miraculeuse, donc je veux lui offrir ma vie. » Ou une parole de connaissance qui va libérer un non-croyant de difficultés qu'il a dans sa vie et puis l'amener à Dieu. Donc en fait, c'est vraiment mettre au service de tous. Un prophète que je connais qui va venir, Blaise Tommy, qui va venir en décembre normalement, une partie de son activité on va dire professionnelle quasiment, c'est de chercher les directions de manière prophétique pour les entreprises. Alors ça peut paraître curieux, mais faire les bons choix, prendre le bon chemin, ça peut être valable pour les études, pour le mariage, pour le lieu de vie et pour l'entrepreneuriat. Donc on peut aller appliquer des choses et des dons spirituels dans tout un tas de domaines qui semblent pas spirituels, mais finalement Dieu veut être avec nous dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait. Donc faut pas être étonné d'avoir c'est pas comme d'aller voir la voyante, vous voyez, c'est vraiment de dire qu'est-ce que Dieu veut pour l'entreprise, quelle est la bonne stratégie. Et tout au long de la Bible, on voit à quel point dans l'Ancien Testament Dieu va donner aux prophètes les stratégies militaires, par exemple, très souvent. Attention, tel roi il est là, donc faites un détour, etc. Dieu donne des stratégies pour des choses qui ne sont pas spirituelles. Et c'est aussi à nous aujourd'hui de pouvoir appliquer ces choses-là partout où on sent vraiment le Saint-Esprit qui va nous guider. Alors, j'aimerais conclure avec la liste de ces dons spirituels, très rapide, et qu'on puisse prendre le temps de réfléchir à est-ce que j'en ai 9. Est-ce que j'ai un de ces dons? Est-ce que j'ai une de ces capacités surnaturelles. Est-ce que quelqu'un a prié pour moi à un moment donné pour recevoir tel ou tel don spirituel ? Ou jamais ? Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs que j'aimerais vivre ? Est-ce que il n'y a pas quelque chose que j'ai pu pratiquer, un don que j'ai pu pratiquer pendant un certain temps et puis que j'ai laissé de côté ? Et Paul nous incite vraiment à plusieurs reprises désirer, rechercher, demander à Dieu de vivre ces choses-là pour être, c'est comme si on a des capacités supplémentaires d'aider les autres. Alors, la première, c'est la parole, enfin la première, il n'y a pas d'ordre d'importance, mais celle qui est listée en tout cas dans 1 Corinthiens 12, la parole de sagesse. La parole de sagesse, justement, comme l'exemple que je donnais pour les entreprises, ça va être, par exemple, dans ce qui est la stratégie, dans les stratégies, dans les choix, la manière de faire les choses, que le Saint-Esprit inspire de faire les choses d'une manière plutôt que d'une autre. Là, on va pouvoir donner un conseil, une parole de sagesse qui est surnaturelle. Ça ne va pas être de l'ordre du « j'ai l'impression que c'est telle ou telle chose », ça ne va pas être une espèce d'intuition humaine, mais vraiment quelque chose qui est inspiré par le Saint-Esprit. Ensuite, la parole de connaissance. La parole de connaissance, ça va être de recevoir ce qui a pu se passer dans le passé, dans la vie de quelqu'un, ou même sur une ville, ou quelque chose qui a eu lieu, même peut-être des siècles avant, ça va être une manière de libérer une vérité, en fait, sur le passé. Et proclamer, en fait, mettre à la lumière cette vérité passée va permettre de libérer dans le présent une personne, par exemple, qui peut être enfermée par des choses qu'elle a pu vivre ou par le fait de savoir qu'il y a, par exemple, une oppression spirituelle ou des choses comme ça. Donc là, la parole de connaissance va mettre en lumière quelque chose que Dieu veut révéler pour libérer les personnes. Après, ça, on peut développer chaque don spirituel d'une manière plus approfondie, mais c'est là juste pour qu'on puisse se dire, mais est-ce que j'ai pas déjà vécu ça, ou est-ce que vraiment j'aurais à cœur, moi, de pouvoir vivre de telles choses pour être une bénédiction pour les autres. Le don de foi, comme je disais, c'est cette espèce de foi qui déplace les montagnes, c'est-à-dire une foi en un truc qui est tellement improbable, impossible, que même certains chrétiens peuvent dire c'est de l'ordre de l'impossible, ça va jamais arriver. Des fois, on a des frères et sœurs qui ne sont pas toujours encourageants. Mais ça peut se comprendre des fois dans le fait qu'on croit quelque chose qui semble complètement, humainement, impossible. Mais cette fois-là, c'est un don. C'est un vrai don. Le don de guérison, alors ça, c'est plus facile à comprendre. C'est le fait que régulièrement, nos prières pour les guérisons miraculeuses puissent être exaucées. Le don d'opérer des miracles, ça va être quelque chose de miraculeux, mais pas de l'ordre de la guérison physique. Ça peut être l'influence. Par exemple, quand on voit Jésus qui calme la tempête, là, il y a du miraculeux. Le fait d'avoir une influence sur les éléments naturels. Il y a des témoignages qui vraiment vont dans ce sens-là. À notre époque, du fait justement d'avoir parlé contre des tempêtes, contre des choses qui allaient venir perturber, par exemple, des rassemblements chrétiens, etc. Et puis de voir que vraiment la prière est exaucée. Là, il y a du miraculeux. Et puis bon, c'est vraiment infini. La prophétie, c'est parler sur l'avenir, sur les plans de Dieu. C'est apporter un encouragement, apporter aussi une vision. Euh, Moi, j'ai vu des gens qui avaient vraiment un don prophétique fort et dire à une telle personne, ben, tiens, toi, il faut que tu crées une entreprise dans tel domaine. Et la personne dire, j'ai pas, absolument pas ni de connaissances, ni de formation, ni rien, mais je vais le faire. Et puis, l'entreprise est maintenant vraiment florissante. Ça peut s'appliquer là aussi sur une infinité de circonstances et de vie. Et c'est aussi pour les individus, pour les assemblées, et ça s'applique à tout. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ça va permettre de savoir est-ce que quelqu'un va être animé de quelque chose qui est bon, qui vient de Dieu, ou être animé par des esprits qui sont mauvais, par des démons, par exemple. D'où vient l'autorité, comme on disait tout à l'heure, ces personnes qui prient pour que, enfin qui prient, enfin qui font quelque chose de surnaturel. Et les gens, les brûlés, vont pouvoir guérir plus facilement. La capacité de discerner les esprits, ça va être ça. La personne qui a cette capacité surnaturelle de discerner les esprits va savoir que les choses ne se font pas par l'esprit de Dieu, mais par un démon, un mauvais esprit. De sentir est-ce que la personne est sous influence d'un mauvais esprit, ou est-ce qu'elle est même possédée par un mauvais esprit. Est-ce qu'une maladie, comme je disais tout à l'heure, est due à un problème physique naturel, ou est-ce que c'est dû à l'effet néfaste d'un mauvais esprit. Donc le discernement des esprits, c'est aussi qu'est-ce qui va habiter un lieu. C'est toute un panel de choses qui nous permettent de savoir est-ce qu'il y a un ange là, est-ce que voilà, d'aller un cran plus loin dans la découverte de ce monde surnaturel qui nous entoure. Les deux derniers, il y a la diversité de langues, donc la capacité à parler une langue inconnue, qui parfois peut être une langue humaine qu'on ne connaît pas, et qui souvent va être une langue céleste, on va dire. Donc le parler en langue, sachant que je fais pas une étude non plus là-dessus, maintenant. Mais Paul aussi nous invite à vraiment prier en langue régulièrement, très régulièrement, et parce qu'il y a un impact spirituel très fort. Et puis le dernier, c'est l'interprétation des langues, c'est-à-dire de pouvoir interpréter une langue céleste. Quelqu'un va pouvoir parler en langue et une autre personne, ou la même des fois, avoir l'interprétation, la compréhension de ce qui a été dit, et donc le retransmettre. Et j'ai déjà vu ça plusieurs fois avec un couple en particulier, où le mari dit tiens, ben là je sens qu'il faut que je parle en langue et puis que tu interprètes. Donc en fait c'est comme si moi j'étais en train de vous parler en anglais, puis à côté il y a l'autre personne qui est en train de traduire en français, et c'est exactement la même chose, mais la personne parle en langue et puis l'autre va donner l'explication de ce qui est dit. Et voilà, c'est aussi assez fort. Donc on a là une liste de dons, la parole de sagesse, parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison, opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues, toutes ces choses que nous sommes invités à vivre. Et la question, au bout du compte, comme je disais pour ce matin, c'est de se dire, qu'est-ce que je vis ? Est-ce que je fais mon existence tout à fait naturellement et je crois en Dieu et je prie Dieu ? Ou est-ce que je saisis que je suis citoyen du ciel et que je peux obtenir de cette citoyenneté céleste, des capacités surnaturelles pour venir bénir et amener à Dieu les uns et les autres, ce que je peux croiser. Et ces dons spirituels, c'est pour nous même si bon, l'analogie guerrière est pas très bonne, mais c'est comme des armes qui nous permettent d'agir. C'est comme des outils, on va dire plutôt, des outils qui nous permettent d'agir en faveur des autres et pour glorifier Dieu et pour amener à Jésus-Christ. Alors, est-ce que on est plutôt à se dire si ça vient un jour, pourquoi pas c'est... ou alors les autres le font peut-être mieux que moi, donc ou alors est-ce que on se sent en infériorité à se dire mais je le mérite pas, ou alors de dire à quoi ça me servirait. On peut avoir plein de questions et des blocages qui nous empêchent de désirer et de vivre ces dons spirituels. Et au travers de ce que j'ai pu vous partager, j'ai à cœur que vous puissiez saisir à quel point Dieu lui-même veut qu'on lui demande ses dons. Il veut qu'on les vive au quotidien et que ce soit un moyen de partager la bonne nouvelle avec puissance, avec démonstration de la réalité qu'on prêche. Et pour certaines personnes, une guérison miraculeuse va parler bien plus que un séminaire de théologie. Voilà. Pour d'autres, ça va pas leur suffire. Mais au moins, on vient partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on vient partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et au travers des dons spirituels, on a la capacité de démontrer que c'est vrai, de démontrer l'amour de Dieu pour les autres, et de démontrer aussi que il y a plus que le matériel. Il y a plus que la vie terre à terre, mais qu'il y a vraiment ce monde spirituel que Dieu nous invite à aller expérimenter, quoi. Et je terminerai avec deux versets. Le premier dans 1 Timothée 4, 14. Et Paul écrit à Timothée dans cette lettre en disant « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi. » Et peut-être qu'en chacun de nous, il sommeille des dons et qu'on les utilise pas. Et peut-être aussi qu'on n'a pas eu encore cette faveur de recevoir quelque chose. Et là, Paul dit... Ça a été donné par prophétie, c'est-à-dire que on peut avoir quelqu'un qui va discerner quel don particulier Dieu veut donner à telle personne, et de saisir, de dire par le Saint-Esprit, de savoir que Dieu veut donner à telle personne un don pour faire des miracles, de donner à telle autre personne un don pour la guérison. Et parfois, je l'ai déjà vu, c'est précis au point que Dieu peut parler à quelqu'un et de dire je veux te donner un don de guérison pour certaines pathologies. Pour certaines, j'ai déjà entendu par exemple quelqu'un dire Dieu veut te donner un don de guérison vraiment en spécifique par rapport au problème sur les yeux. Et au-delà d'avoir cette liste-là de 9 dons spirituels sur lesquels on pourrait aller loin dans les explications, il y a aussi pourquoi Dieu le donne, parce qu'il a prévu qu'on l'utilise et qu'on l'utilise d'une manière qui va être pertinente et qui va avoir de l'impact. C'est pour ça que là Paul parle de la prophétie. Et puis par l'imposition des mains, c'est-à-dire une fois que soit quelqu'un a dit Dieu veut te donner tel don, ou alors une fois que vraiment on a prier Dieu de recevoir quelque chose, on demande aux responsables de l'assemblée qui est vraiment une prière spécifique pour recevoir ce don spirituel. Et puis, dans 2 Timothée 1,6, il est dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Alors, 1 Timothée 4, entre 1 Timothée et 2 Timothée, c'est 2 lettres. Il y a au moins 1 an entre les deux. Donc, Paul écrit à Timothée une fois en disant « Ne néglige pas le don. » Et il réécrit une deuxième fois 1 an après en disant « Ranime le don que Dieu t'a donné. » C'est vraiment un appel à ne pas laisser cet aspect de notre vie chrétienne de côté. Mais au contraire, c'est une manière d'insister pour dire « Mais prenez ça vraiment avec toute l'importance que moi j'y mets. » Et c'est vraiment un appel de la part de Dieu dans ces passages que j'ai pu lire et de nombreux autres, de vivre dans la dimension spirituelle à laquelle on a accès en ayant reçu le Saint-Esprit, en ayant donné nos vies à Jésus-Christ. Donc, je vais juste prier maintenant, et puis, je sais pas, on prendra un chant, je pense, après. Et que ce soit l'occasion de réfléchir, de dire quel don je peux avoir, quel don j'aurai à cœur de pratiquer. Est-ce que j'ai pas laissé tomber quelque chose? Est-ce que je prends pas suffisamment comment dire, ça demande un certain pas de foi d'aller par exemple proposer la prière pour une guérison. Donc est-ce que je pratique, ou est-ce que j'ai peur que ça marche pas, donc je pratique pas. Tout un tas de questions à remettre devant Dieu pour aller plus loin et peut-être se dire ce matin, moi j'ai envie de vivre plus dans cet aspect surnaturel, dans ces dons spirituels, dans cette vie du ciel que Dieu nous appelle à de multiples reprises et de façon très précise, comme on a pu le voir, nous appelle à vivre. Amen. Seigneur, tu es un Dieu généreux. Et tu nous appelles non seulement à vivre notre humanité, mais aussi à vivre notre vie d'esprit, notre vie de citoyen du ciel. Et on veut être attentif aux outils que tu veux nous donner, à ces dons spirituels qui sont là pour te servir, pour t'honorer, pour te glorifier, qui sont là pour aider les autres, ceux qui croient en toi, ceux qui ne croient pas encore en toi, mais que tu appelles, à qui tu veux témoigner de l'amour, à qui tu veux démontrer ta puissance. Seigneur, on ne veut pas laisser cette vie surnaturelle de côté, mais on veut la vivre pleinement, à la dimension à laquelle tu nous appelles, pour avoir cette joie profonde à chaque fois qu'on met ses dons en mouvement, cette joie d'être un acteur du salut avec toi, Saint-Esprit, et d'être un témoin efficace de l'évangile, de la bonne nouvelle du Christ. Et viens nous parler pour comme allumer des lumières ce matin sur les dons que tu veux qu'on ait chacun et les choses que tu veux mettre entre nos mains. Viens nous interpeller comme Timothée. Est-ce que tu n'as pas mis de côté? Ce n'est pas avec jugement, mais c'est cet appel à ranimer la flamme, ranimer le feu, ranimer le désir de vivre ces dons spirituels et de pouvoir propager le royaume de Dieu au travers de cette mise en pratique. Seigneur, tu es généreux, tu es bon, et on veut se servir de toutes les grâces, de toutes les faveurs, de tous ces charismes pour propager à quel point tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu généreux, et aussi que tu es l'Éternel, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Viens, Seigneur, Saint-Esprit, nous investir pour qu'on puisse avancer dans cette dimension en toute intelligence, avec toi, dirigé par le Saint-Esprit, pas par une mauvaise intention, mais avec un cœur pur, juste de vouloir d'accepter les cadeaux que tu veux nous faire et d'en faire des bénédictions autour de nous. Amen.